On parle de bouquins sur Radio PFM, la chronique 1000 et une pages proposée pour nous par Frédéric à distance du côté de Béthune. Alors Frédéric, on ne va pas dans une librairie ni même dans une bibliothèque cette semaine, mais tu nous invites au resto.
Oui Nico, mais on va pas les manger à Arras. Je propose d'aller faire un petit tour du côté du boulevard Saint-Germain. Plein cœur, oui, de Saint-Germain-des-Prés, juste en face du Flore et des deux magots. Ça s'appelle la brasserie Lip. Elle ne portait d'ailleurs pas ce nom-là, hein, sa création en 1880, par des gens qui venaient de l'Est et qui ont choisi d'utiliser comme nom la brasserie des Bordurins. Évidemment, en 1914, la brasserie des Bordurins n'est pas spécialement la mieux vue, alors on change. Et le propriétaire donne son nom à la brasserie, qui devient la brasserie Lip. Un nombre incalculable de personnalités sont venues s'asseoir dans cette salle, qui, au fond, se décline ensuite avec une véranda qu'on gagnera sur le trottoir. L'un des propriétaires se battra ardemment pour que le trottoir soit élargi et gagne ainsi un peu de clients. On déplacera même une statue de Diderot qui était là sur le coin de la rue pour pouvoir élargir ce fameux trottoir. On déplacera tout un tas de trucs. Mais évidemment, la salle juste de l'autre côté de la porte tambour est la plus importante. Elle s'appelle d'ailleurs le paradis. Plus loin dans le fond, il y a le purgatoire et à l'étage, l'enfer, comme si l'étage était finalement plus près de celui-ci. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, être vu et voir ce qui se passe est le plus important dans cet endroit fréquenté. Je ne pourrais vous citer l'ensemble des personnalités, mais de Belmondo à Pierre Berger, de Jean Dutour à Alice Sapritch. Mais bien avant cela, on croise Verlaine, qui vient y boire peut-être pas de la bière, qui pourtant était une des boissons spéciales de l'endroit, qui d'ailleurs ne sert toujours pas de Coca-Cola encore aujourd'hui. On y croise Apollinaire, on y croise également Sandra, Saint-Exupéry, Boris Vian, ou encore Picasso et Hemingway. Mais plus encore que les personnalités, ce que raconte Claude Guittard, c'est comment fonctionne l'endroit. La table numéro 1. Forcément la plus recherchée, celle de Mitterrand. Où Mitterrand attendait régulièrement Mazarine, qui habitait pas très loin avec sa maman et qui venait le rejoindre pour déjeuner à cet endroit, y compris lorsqu'il est devenu président, vous l'avez compris. Mais il y a des tables juste devant un certain radiateur qui vous permettent de regarder l'ensemble de la salle et qui sont elles aussi très recherchées. On y croise des tournages de films parce que juste devant cette brasserie, Ben Barka a été enlevé et a connu la fin que je pense vous connaissez. Fin dont Yves Boisset fera un film dans L'Attentat, qui d'ailleurs raconte de façon un petit peu particulière le tournage de ce film qui n'est peut-être pas exactement la réalité. C'est en ça que le livre de Claude Guittard nous amuse, parce que son point de vue de maître d'hôtel et puis ensuite de directeur, nous permet de regarder cet établissement un petit peu autrement et d'y voir un nombre de rencontres très particulières. On voit Bill Clinton, par exemple, attendre dans la rue pendant de longues minutes pour se retrouver finalement dans cette fameuse véranda, parce qu'il est avec trop de personnes et il n'y a pas assez de place dans l'endroit, mais il n'est pas question de refuser quand même une place à Clinton. On y croisera de façon tout aussi amusante un grand nombre de personnalités du cinéma et aussi plus généralement de la littérature qui joue un rôle, il faut bien le dire, assez important dans les personnalités qui parfois même ont écrit l'entièreté de leurs livres là. Il y a ceux qui viennent bien plus pour y venir que pour y manger. Et de façon très régulière, Romain Gary prend un bouillon et une pomme chaque jour, pendant de longues semaines, et il est régulièrement là, assis avec Jane Seberg. On sait éviter les impairs en débarrassant les invités de leurs impairs. En lisant régulièrement, et c'est ce que recommande Claude Guittard à l'ensemble de ses employés, de lire le journal le matin pour savoir ce qui s'est passé, qui est en odeur de sainteté, qui vient de se faire décorer, qui a du succès, qui voit le succès s'éloigner un petit peu. On voit des habitués reconnaître immédiatement ce qui se passe en cuisine, l'absence de la responsable des entrées parce que les betteraves ne sont pas découpées de la même façon. On y croise peut-être plus encore, et c'est là où le livre se fait très particulier, ce moment où le virus a fait fermer l'établissement, ce qui ne s'était pas produit depuis des lustres, et le changement qu'il y a ensuite, ces tables que l'on ferme une sur deux pour éloigner les clients parce que la loi l'y oblige, et puis le retour qui ne se fait pas vraiment, ce monde d'avant qui disparaît vraiment, concrètement. Claude Guittard, qui a bien connu pour y avoir travaillé pendant 30 ans cet établissement, le décrit assez singulièrement, précisément. Il nous le fait en tout cas regarder autrement, et il faut bien le dire, avec une certaine nostalgie. Ça s'appelle « L'IP est une fête », c'est signé Claude Guittard et c'est publié aux éditions du Rocher.
Merci à toi Frédéric. Prochaine chronique 1000 et une pages la semaine prochaine sur Radio PFM 99.9. Une chronique à retrouver également en ligne sur radiopfm.com.